tous les précédents montrent qu'on a affaire soit à un individu isolé, c'est-à-dire quelqu'un qui est seul et qui conçoit un plan machiavélique ou supposé tel dans le secret de son cerveau et puis après ça le met en place et tente de l'exécuter, ou au pire d'un couple au sens symbolique du terme, d'individus sur lequel un exerce une emprise totale sur l'autre, de type gourou, de type sectaire. Et là, on a affaire, dans le premier cas, à Theodore Kaczynski et puis le Unabomber aux États-Unis, qui a pu fonctionner pendant plus d'une décennie en envoyant des colis piégés ou des lettres piégées. Et dans l'autre cas, on a affaire, pour prendre aussi un exemple aux États-Unis, à cette espèce de tandem de déséquilibrés qui s'amusait à tirer sur des gens et à les tuer à Washington en 2002, mais qui ne relève pas d'un groupe terroriste du type Action Directe ou Brigade Rouge ou Bin Laden ou quoi que ce soit.
De quels moyens dispose le gouvernement pour lutter contre de telles menaces ?
C'est très difficile. Dans le cas de Theodore Kaczynski et de Unabomber, alors qu'il y avait eu des morts, quoi, je crois que 4 personnes ont été tuées, une douzaine blessées sérieusement, on a mis plus de 10 ans à le trouver. Il y a dans les enquêtes autour de la mise hors d'état de nuire de ce genre de personnage un facteur chance extrêmement élevé, parce que plus un groupe est constitué, plus il est structuré et plus il laisse des traces. Et quand ça se passe dans le cerveau d'un seul individu, ou alors dans une espèce de tandem de gens qui ne se quittent jamais, qui donc n'ont jamais besoin de téléphoner, etc., ça pose des problèmes graves. Le plus souvent, ce qui permet d'intercepter des individus, c'est qu'ils surveillent mal leur communication, soit avec les médias, soit avec la police, et qu'on peut comme ça, par triangulation, repérer la zone géographique où ils se trouvent et après les arrêter.
Les gouvernements doivent-ils répondre à de telles menaces ?
Sur le fait de prendre la menace au sérieux, oui, et pour cause. On peut très bien avoir affaire à un individu qui a une connaissance professionnelle sur la manière de faire des bombes ou des objets explosifs comme ça, et il peut très bien se livrer à un attentat désastreux. Je veux dire, faire dérailler un train, ça peut avoir des conséquences dramatiques. Donc le ministre de l'Intérieur fait très bien de prendre cette affaire au sérieux. Maintenant, je ne sais pas si le gouvernement a vraiment l'intention de négocier ou de donner une rançon, ou s'il compte pouvoir mettre la main sur un individu central ou même sur le sol, si c'est un individu solitaire lors de la prise de la rançon. Vous savez, il faut être prudent à ce propos-là. On ne sait jamais si c'est une vraie et sincère capitulation en disant « bon, ben, on va vous donner tout l'argent que vous voulez pour que vous nous laissiez tranquille » ou une ruse visant à le mettre hors d'état de nuire.
C'est la presse qui a dévoilé ce chantage à la bombe. Le ministère de l'Intérieur avait demandé aux différents organes de presse de ne pas rendre publique cette information. Qu'est-ce que vous pensez de cette consigne ?
Je pense que c'est un acte tout à fait irresponsable d'avoir publié cette information. Le cas le plus plausible est celui d'un individu instable psychologiquement et donc une publication des choses peut pousser à un acte de folie. C'est quelque chose en psychiatrie qui s'appelle la décompensation. Il peut très bien décompenser et puis après ça aller tout de suite poser une bombe sur un train ou l'activer s'il l'a déjà préparé. Et donc, je pense que si tous les journalistes avaient leur conscience vraiment bien éclairée sur la dangerosité de telles opérations, le ministère de l'Intérieur aurait même pas dû le dire. On n'a pas affaire à un gouvernement qui cherche à dissimuler une menace terroriste d'un groupe terroriste constitué. 8 chances sur 10 ou même 9 font qu'on a sans doute affaire à un individu limite délirant. Il faut faire preuve de beaucoup de prudence et beaucoup de réserve en pareil cas pour ne pas l'exciter.